Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 11. Les barons voleurs, les rebelles. Troisième partie. L'essor de l'enseignement public permit à toute une génération de travailleurs, qualifiés ou peu qualifiés, destinés à constituer la main-d'œuvre instruite du nouvel âge industriel, d'acquérir l'écriture, la lecture et l'arithmétique.
Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin.
Il était primordial que ces individus intériorisent l'obéissance envers l'autorité. Déjà, en 1859, les propriétaires des manufactures de Lowell dans le Massachusetts souhaitait avoir des ouvriers instruits.
C'est le tango des forts en dème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur, qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, mais qui seront pharmaciens, parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rose arrosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine.
Un souhait que le secrétaire à l'éducation du Massachusetts expliquait en ces termes. Les patrons des manufactures sont plus soucieux que d'autres classes ou groupes d'intérêt de l'intelligence de leurs salariés. Lorsque ces derniers sont relativement instruits et que les premiers sont disposés à agir envers eux avec justice, les conflits et les grèves n'ont pas lieu d'éclater. Et les masses ne peuvent être ni subjuguées par les démagogues, ni obnubilées par des considérations aussi mesquines que déloyales.
Il y a Rosa, Zarou, Zis. C'est le tango du temps des zéros. J'en avais tant des minces, des gros. J'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses. Quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines. Oh, Rosa, 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 Rosam, Rose, Rose, Rosa, Rose, Rose, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis.
C'est à partir de la seconde moitié du 19e siècle que l'enseignement secondaire se mit clairement au service du système industriel et que la discipline historique devint une matière spécifiquement destinée à forger le patriotisme du citoyen. Un serment de fidélité, des diplômes et la citoyenneté américaine étaient exigés pour s'assurer du comportement politique et éducatif des enseignants. En outre, c'est aussi dans la deuxième partie du siècle que les administrateurs des établissements scolaires, et non les enseignants, se virent confier un droit de regard sur les manuels scolaires utilisés. Certains manuels furent interdits par les parlements des États. L'Idaho et le Montana, par exemple, interdirent des manuels diffusant certaines doctrines politiques, et le territoire du Dakota décréta que les bibliothèques scolaires ne pourraient pas détenir de livres ou de fascicules politiquement marqués. Contre cette formidable instrumentalisation du savoir et de l'éducation au profit de l'obéissance et de l'orthodoxie politique, on vit progressivement apparaître une littérature de protestation et de refus qui allait faire son chemin, lecteur après lecteur, malgré les nombreux obstacles. Henry George, ouvrier autodidacte, issu d'une famille misérable de Philadelphie, et qui devint homme de presse et économiste, fit paraître en 1879 un livre qui se vendit à des millions d'exemplaires aux États-Unis et dans le monde entier. Il affirmait, dans Progress and Poverty, que la terre était à la base de toutes les grandes fortunes et qu'il existait de véritables monopoles fonciers. Un simple impôt sur la terre abolirait toutes les autres et suffirait à collecter assez d'argent pour résoudre les problèmes de la pauvreté et de la répartition des richesses au niveau national. Les lecteurs pouvaient ne pas être convaincus des solutions préconisées, mais ils étaient néanmoins en mesure de constater que leurs conditions de vie confirmaient ce constat. Edward Bellamy, juriste et écrivain de l'Ouest du Massachusetts, écrivit dans un style simple et captivant un roman intitulé « Looking Backward ». Après s'être endormi, le narrateur se réveille en l'an 2000, dans une société socialiste, au sein de laquelle les individus vivent et travaillent dans la plus totale coopération. « Looking Backward », qui décrit le socialisme de façon vivante et séduisante, se vendit à 1 million d'exemplaires en quelques années. Plus d'une centaine de groupes à travers le pays tentèrent de réaliser ce rêve. Il semble donc que, malgré les efforts incessants du gouvernement, des milieux d'affaires, de la religion et de l'école pour contrôler l'opinion publique, des millions d'Américains aient été réceptifs aux critiques sévères adressées au système en place. Il semble également qu'ils aient été prêts à envisager des modes de vie différents. Il se trouvait confronté en cela par les grands mouvements ouvriers et paysans des années 1880 à 1890. Après les grèves et les conflits paysans qui avaient éclaté sporadiquement, des années 1830 aux années 1870, ces mouvements d'envergure nationale étaient plus menaçants que les précédents aux yeux de l'élite dirigeante et également plus dangereusement séduisants. Il existait alors des organisations révolutionnaires dans les principales villes américaines, et la révolution était bien souvent au centre des discussions. Dans les années 1880-90, les immigrants arrivèrent massivement d'Europe, à un rythme bien plus soutenu qu'auparavant. Ils passaient tous par les chemins de croix de la pauvreté. Après les Irlandais et les Allemands, ce fut au tour des Italiens, des Russes, des Juifs et des Grecs, des populations venues de l'Europe du Sud et de l'Est, encore plus étrangères aux natifs américains anglo-saxons que les immigrants précédents. Un article du 27 février 1880, paru dans Svornost, journal des immigrants originaires de Bohême, montre à quel point l'immigration de différents groupes ethniques a contribué à la fragmentation de la classe ouvrière et comment les conflits éclatèrent entre ces groupes, qui partageaient pourtant les mêmes difficultés. Les Irlandais, gardant en mémoire les réactions de haine dont ils avaient été l'objet lors de leur arrivée, commencèrent à trouver des emplois grâce aux appareils des partis qui convoitaient leur vote. Ceux qui devinrent policiers furent confrontés à l'immigration juive récente. le 30 juillet 1902, la communauté juive de New York organisa les funérailles en grande pompe d'un important rabbin. Mais des affrontements éclatèrent, provoqués par des Irlandais furieux de voir les Juifs s'installer dans leur quartier. Les forces de police étaient principalement composées d'Irlandais et une enquête officielle révéla que ces policiers s'étaient rangés aux côtés des agresseurs irlandais. Des accusations ont été portées contre des policiers pour matraquage arbitraire et excessivement brutal, avec pour conséquence un avertissement ou une amende équivalente à une journée de salaire. Ces policiers n'en sont pas moins restés membres des forces de police. La concurrence économique entre les nouveaux immigrants était acharnée. En 1880, les immigrants chinois, importés par les compagnies ferroviaires pour faire les travaux les plus ingrats et pour un salaire de misère, représentaient avec 75 000 personnes près d'un dixième de la population californienne. Ils furent l'objet de violences continuelles. À Rock Spring, dans le Wyoming, à l'été 1885, les Blancs attaquèrent 500 mineurs chinois, massacrant de sang-froid 28 d'entre eux. Ces nouveaux immigrants occupaient des emplois de manœuvre, peintres en bâtiment, tailleurs de pierre, terrassiers. Ils étaient la plupart du temps importés en masse par des intermédiaires. Un Italien qui devait rejoindre le Connecticut pour travailler dans les chemins de fer fut finalement expédié avec juste ce qu'il fallait pour payer le voyage et les outils, sans parler de la nourriture, dans les mines de phosphate du Sud, où ses camarades et lui étaient constamment surveillés par des hommes en armes. Il décida de s'enfuir avec quelques autres, mais fut repris et sommé, sous la menace des armes, de choisir entre le travail et la mort. Comme ces hommes refusaient d'obéir, ils furent menottés et traînés devant le juge, puis finalement congédiés 5 mois après leur arrivée. Mes camarades prirent le train pour New York. Mais moi, je n'avais qu'un dollar en poche et je ne connaissais ni le pays, ni la langue. J'ai dû marcher jusqu'à New York, où j'arrivais complètement épuisé au bout de 42 jours. À mesure que les immigrants accédaient à la citoyenneté américaine, ils étaient intégrés dans le système de bipartisme politique, quasiment sommés de se vouer à l'un ou à l'autre des partis. Leur potentiel politique était donc neutralisé par le système électoral. Dans les années 1880, le nombre des immigrants approchait les 5,5 millions. Ils furent encore 4 millions dans les années 90. Créant un excédent de main-d'œuvre qui permettait de maintenir les salaires à un bas niveau. Les immigrants, plus démunis que les travailleurs américains, étaient également plus facilement contrôlables, du fait de leur altérité culturelle et de l'animosité réciproque qui les animait, ils étaient fort utiles comme briseurs de grève. Bien souvent, leurs enfants travaillaient également et venaient grossir les rangs d'une main-d'œuvre et d'un chômage déjà pléthorique. En 1880, aux États-Unis, 1,118,000 enfants de moins de 16 ans travaillaient. Comme tout le monde travaillait de longues heures durant les journées, les membres d'une même famille devenaient peu à peu étrangers les uns aux autres. Maurice Rosenfels, blanchisseur de son état, écrivit un très célèbre poème intitulé « My Boy » qui fut publié à des milliers d'exemplaires. « J'ai un petit garçon à la maison, un mignon petit gars. Je pense parfois que le monde est à moi, à travers lui, mon petit gars. Mais à l'aube, le travail m'enchaîne et il fait nuit quand il me lâche. Je suis un étranger pour mon gars et c'est un étranger pour moi. » Des hommes d'affaires astucieux et efficaces bâtissaient des empires, se débarrassaient de la concurrence, maintenaient des prix élevés et des salaires bas et profitaient du soutien financier du gouvernement. Ces industries furent en fait les premiers bénéficiaires de cette sorte d'état-providence. Au tournant du siècle, l'American Telephone and Telegraph avait le monopole du réseau téléphonique national. L'International Harvester détenait 85% des parts de marché dans le secteur du matériel agricole. Dans tous les autres secteurs, les ressources étaient également de plus en plus concentrées et de plus en plus contrôlées. Les banques possédaient des intérêts dans de si nombreux trusts qu'elles purent mettre sur pied un réseau complexe de grands dirigeants d'entreprises qui étaient tous également membres des directoires des autres entreprises. Selon un rapport sénatorial du début du XXe siècle, Morgan, au sommet de sa gloire, siégeait dans 48 conseils d'administration, tandis que Rockefeller se contentait de participer à 37 de ses organes de direction. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.